Radio Okapi, regarde sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regarde sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 26h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la soirée de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la soirée de la semaine, nous recevons ici au studio Dona Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant de Bukavu Sud Kivu. Bonjour Dona Moussema.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
En ligne, Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonjour maître Jean-Claude Katende.
Bonjour monsieur Guy Maté et bonjour à tout le monde, mais aussi à monsieur Dona et madame Bachmann qui sont avec moi sur ce partage.
Merci. Et aussi en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, madame Colette Bachmann, la journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Le Soir. Bonjour madame Colette Bachmann.
Bonjour monsieur Maté, bonjour tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de sept derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Dona Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant de Bukavu au sud Kivu. Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, madame Colette Plattmann, elle est journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Le Soir. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir l'idée de la tenue d'un dialogue refait surface après la réunion de Bujumbura entre l'opposition C64 et certaines confessions religieuses autour du président Ndayishimiye. La RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda pour violation de plusieurs conventions internationales. Et enfin, entre les diplômes, le chômage et l'emploi chez les jeunes en RDC, à Kinshasa, 78% des jeunes sont des chômeurs et vivent de la débrouille. Mais nous allons commencer par mettre un commentaire au sujet de la radicalisation de la grève des médecins. En effet, les activités sont fortement perturbées dans plusieurs établissements de santé publique de la RDC, notamment à Kinshasa et dans la province des Kwilu. Depuis mardi 7 juillet, les médecins ont entamé une phase de radicalisation de leur mouvement de grève à travers un arrêt total de travail à l'appel du syndicat national des médecins SINAMED afin de contraindre le gouvernement à honorer les engagements pris dans le cadre du cahier des charges signé avec les corporations il y a 3 ans. Selon les SINAMED, toutes les provinces sont concernées par l'opération Hôpitaux sans médecins, à l'exception du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, en raison du contexte sécuritaire et sanitaire qui y prévaut. En effet, ces provinces, en proie à l'activisme des groupes armés tels que l'AFC M23 et les EDF, sont également confrontées à l'épidémie d'Ebola. Cette opération d'arrêt complet des travaux est prévue du 7 au 16 juillet 2026. Durant cette période, seuls les services d'urgence et les banques de sang continueront à fonctionner, précise le syndicat. Ces mouvements s'inscrivent dans la continuité d'une grève lancée le 24 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national. Les professionnels de la santé attendent désormais un signal clair et des engagements concrets du gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions salariales avant d'envisager toute reprise normale des activités. Dona Moussema, le médecin qui était en grève partielle depuis un certain moment, vient de radicaliser leur mouvement de grève. Donc, on aura des hôpitaux sans médecins. Que vous inspire cette situation?
Bonjour encore une fois, merci pour la question. D'emblée, je voulais d'abord saluer, reconnaître le travail de Madame Colette Brackman, ma consoeur, qui a beaucoup travaillé pour l'Afrique et pour le Congo. Je la salue. Et c'est un plaisir donc de partager le micro avec elle et aussi avec Maître Jean-Claude Katende, qui venait de me saluer tantôt. Au fait, c'est dommage, c'est déplorable de voir que le Congo refuse toujours de décoller. Quand les médecins dans un pays déclenchent encore une fois de plus ce mouvement de grève, il y a des conséquences néfastes sur les vies humaines, bien entendu. Et malheureusement, comme vous venez de le dire ici, c'est qu'ils contraignent le gouvernement qui n'a pas respecté les engagements. Et voilà, maintenant, c'est la population qui va en payer le prix. Il y aura des pertes en vies humaines. Il y aura beaucoup, beaucoup de défis et de manques à gagner. Donc voilà, c'est très, très dommage. Mais au même moment, il faut souligner que la grève est reconnue dans la législation congolaise, notamment au niveau de la Constitution, l'article 39 qui donne droit à une grève si les conditions ne sont pas remplies. Donc ici, il faudrait que le gouvernement rentre encore dans ses responsabilités et qu'il puisse agir pour mettre les médecins dans des bonnes conditions, parce que avant tout, c'est la santé, hein, c'est la santé. Les médecins, comme tout le monde, sont très très importants, les services médicaux. Nous avons droit aux soins de santé de qualité. Encore qu'au Congo, 70% de la population n'a pas accès aux soins de santé de qualité, avec beaucoup de problèmes, coûts élevés, des soins, insuffisance des hôpitaux, il y a des guerres, des conflits par-ci, par-là, les médicaments qui coûtent très très cher. Donc voilà encore un cas de ras-le-bol, mais je suis de cœur avec les médecins, tout en ne les encourageant pas, mais je ne leur donne pas non plus tort, parce que bon, la grève est quand même reconnue. C'est plutôt du côté du gouvernement qu'il faut pencher, c'est à lui de faire son travail.
Merci Jean-Claude Katende. Cette grève intervient au moment où le pays fait face à l'épidémie d'Ebola, mais aussi au moment où les personnels soignants impliqués dans la riposte contre cette épidémie d'Ebola en Ituri réclament aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais également, on sait que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. On sait que souvent, ce moment-là est choisi par les syndicats des enseignants, n'est-ce pas, pour réclamer également l'amélioration de leurs conditions de travail. Vous pensez que le moment choisi par les médecins est propice pour observer cette grève?
Merci, monsieur Imaté, pour la parole et la question que vous m'avez posée. En République démocratique du Congo, nous avons un problème de justice sélective. Nous avons des revenus qui sont mal répartis. Il est important que chaque citoyen obtienne un salaire qui est la correspondance en fait des efforts qu'il fournit. Vous allez voir que les ministres, les députés, ainsi que d'autres personnes qui sont dans les institutions politiques, touchent plus d'argent que le reste de la population. Pour quelle raison? Les députés doivent être payés chèrement. Et pourquoi on oublie les médecins? C'est ça la question fondamentale. Déjà, nos en temps normal, ne fonctionnent pas très bien. Les soins ne sont pas des soins de qualité. Et maintenant qu'il y a la grève, ça veut dire en d'autres termes que les pauvres citoyens qui ne peuvent pas aller se faire soigner à l'extérieur du pays vont en souffrir. Et je comprends bien pourquoi les gouvernements ne prennent pas à cœur la question des médecins. C'est tout simplement parce que eux, ils ont la possibilité, au frais de l'État, eux et leurs familles, ils peuvent aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Et donc, si les soins ne sont pas adéquats, si les médecins sont en grève, ça ne leur porte pas préjudice. Et c'est ce comportement depuis des années, pas seulement sous les régimes du président Tshisekedi, mais même avant. Mais il faut louer ici la sagesse des médecins qui n'ont pas voulu déclencher la grève dans les territoires qui sont occupés, mais aussi les territoires qui sont concernés par Ebola, c'est parce qu'en fait, ils tiennent compte de cette gravité en prenant en compte le fait que les médecins et les malades qui sont atteints par Ebola ne puissent pas être préjudiciés. Comme on l'a dit, la grève est consacrée par les lois de la République démocratique du Congo. Donc, à chaque moment, si on respecte les conditions que la loi pose, notamment en termes de préavis, on peut faire la grève. Donc, la grève peut être faite à tout moment. La seule chose que je reproche aux médecins depuis des années, c'est d'entamer la grève et de pouvoir la lever sans atteindre des objectifs. Voyez-vous, il faut qu'on soit conséquent. Si on prend la décision de gréver, alors allons-y jusqu'à la fin pour qu'on améliore les conditions. Et on va encore se faire tromper par le gouvernement ou les pères des caisses syndicaux vont aller se faire rouler par le gouvernement et ils vont lever la grève sans atteindre des objectifs et à la fin, on va tout simplement dire que c'était une grève pour rien. On a abandonné les malades pour rien. Donc s'ils veulent, ils doivent aller jusqu'à la fin pour obtenir des changements en ce qui concerne leurs conditions de travail. Parce que l'État a l'obligation de mettre les médecins dans les conditions où ils doivent bien travailler. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des médecins qui travaillent dans 5 ou 6 hôpitaux. Comment vous vous concentrez? Comment vous vous donnez aux malades? En fait, ça devient le besoin du nègre de trouver au maximum des revenus pour nouer les bouts du monde. Parce que l'État n'arrive à assumer ses responsabilités. Il y a même des médecins qui ont des polycliniques privées où les malades qui sont dans les hôpitaux publics sont des fois orientés dans ces cliniques privées où pour faire des examens, il faut aller dans ces cliniques privées. Et donc, du fait que les médecins n'ont pas de revenus conséquents, la médecine ou l'administration des soins devient un commerce. Et c'est les pauvres qui en souffrent.
Merci. Merci, Madame Colette Bachmann. Face à cette grogne sociale, le gouvernement n'a pas encore réagi. Comment vous comprenez ce silence du gouvernement congolais, Madame Colette Bachmann?
J'ai l'impression que le gouvernement congolais, pour le moment, fait face à un grand nombre de défis simultanés. C'est le rein des dangers de la situation actuelle. Le défi est militaire, il y a le défi d'Ebola, il y a le défi de l'occupation de l'Est par le M23. Il a rajouté lui-même le défi du référendum et de l'hypothèse d'un troisième mandat. Alors évidemment, le front social qui est là, qui n'est pas nouveau, mais qui s'aggrave, et que je crois que le gouvernement est un peu dépassé, en partie par les fronts qu'il a ouverts lui-même.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Médecins d'ennemis de Joski Kambokuta dans l'orchestre Hockey Jazz et on se retrouve juste après.
Sabeli misa yo na maso staraka, oke yo kiki mwana.
C'était Médecin des Nuits de Djoski Kambukuta dans l'orchestre Hockey Jazz. On rappelle que c'est depuis le 7 mars 2021 que Joseph Augustin Kambukuta Londa di Djoski Kambukuta nous a quittés. Paix à son âme. Le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, a échangé lundi 7 juillet à Bujumbura avec une délégation en provenance de la République démocratique du Congo. Cette délégation était composée des responsables des partis politiques d'opposition ainsi que des leaders des principales confessions religieuses de ces pays. Au menu des consultations sur les tensions politiques, sécuritaires et institutionnelles en RDC. Le chef de l'État burundais a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges menés dans un esprit d'ouverture et de confiance. Il a insisté sur l'importance d'un dialogue constructif et sur l'unité. Cependant, l'opposition C64, au cours de ses consultations, était porteur d'un seul message, la constitution ne peut être changée. Outre la coalition d'opposition C64, le chef de l'État burundais a également reçu séparément les représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, de l'Église du Christ au Congo, SSC, ainsi que de la plateforme des confessions religieuses et des églises du réveil en RDC. Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Kinshasa, la plateforme a fait la restitution de cette rencontre. La C64 affirme qu'elle poursuivra ses actions pacifiques jusqu'à l'abandon du projet de révision constitutionnelle par les pouvoirs de Kinshasa. Madame Colette Bachmann, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pendant longtemps pour le journal Les Soirs, et vous avez souhaité nous parler de cette idée de la tenue d'un dialogue national qui refait surface après la réunion de Bujumbura entre l'opposition C64 et certaines confessions religieuses autour du président Ndayishimiye. On vous écoute.
Oui, d'abord, dans un premier temps, je dois dire que la médiation du Burundi m'a fait sursauter, parce que on assiste vraiment à une ronde de différentes médiations. Il y a eu le Kenya, l'Angola, la Guinée, enfin, on peut égrener pendant une demi-heure tous les médiateurs qui se sont présentés. Et je me suis demandé pourquoi le Burundi, alors que le Burundi est notoirement proche du régime de Kinshasa, que son armée est engagée sur le territoire congolais dans les montagnes du sud, qui vous, ils font des opérations avec la FRDC, donc je me suis demandé si le Burundi, en tant que tel, avait la légitimité, l'objectivité de se présenter comme un médiateur. Et puis dans un deuxième temps, je me suis rendu compte qu'en fait, le Burundi n'était pas que le Burundi. Le Burundi exerce en ce moment la présidence de l'Union africaine. Donc ce sont tous les pays de l'Union africaine qui sont, via le Burundi, associé à ce XM effort de médiation. Ensuite, le Burundi est un petit pays, mais qui est en rupture avec le Rwanda, mais qui a des contacts dans la région. Il ne faut pas oublier le passé du président Ndayishimiye, qui a vécu en Tanzanie, qui a des relations avec les pays d'Afrique australe, et je pense que via le Burundi, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Tanzanie, bien entendu, le Mozambique, tous ces pays peuvent être associés aussi à la recherche d'une solution. Et je crois qu'il est aussi très légitime qu'il écoute l'opposition qui s'est regroupée, qui met en cause l'idée d'un référendum sur un troisième mandat, et peut-être qu'il pourrait aussi, lui qui est Ndayishimiye, qui est un militaire, hein, il sait ce que c'est que la guerre, que l'effort militaire, le sacrifice que cela demande, et pourrait peut-être aussi conseiller aux dirigeants de la RDC de ne pas ouvrir trop de fronts en même temps, de ne pas ouvrir le front politique qui le met en rupture avec l'opposition, en difficulté avec les, alors qu'il est pour l'instant mobilisé sous l'enjeu militaire, la défense du pays, la tentative de récupération des territoires occupés, et puis aussi à plus long terme quand même, les risques d'éclatement du pays. Alors je pense que Ndayishimiye, qui est un vieux routier d'abord de l'expérience militaire et ensuite de la politique, peut représenter un médiateur, ou en tout cas quelqu'un qui ramène toutes les parties au bon sens et rappelle quels sont les enjeux les plus importants.
Voilà, et l'opposition, s'il faut revenir sur cette idée qui refait surface, l'idée de l'organisation, n'est-ce pas, d'un dialogue national, l'opposition conditionne la tenue éventuelle d'un dialogue par la renonciation par les régimes de Kinshasa de la démarche visant les changements de la Constitution. Vous pensez, Madame Colette Bachmann, vous pensez que le pouvoir est prêt à accéder à cette condition de la C64?
Pour le moment, non, parce qu'on a l'impression que le pouvoir est très décidé à avancer sur l'idée du référendum et d'une modification de la Constitution, mais ils sont aussi capables de voir ce qui est possible et qui ne l'est pas, et de voir les enjeux que cet affrontement, cette dissension maintenant représente, y compris pour eux-mêmes. Parce que continuer sur cette voie, avancer, mollifier la Constitution qui a été si difficile à rédiger, à faire accepter, c'est se mettre en danger soi-même. C'est-à-dire se mettre en danger le pouvoir de M. Tshisekedi et de tous ceux qui sont avec lui. Et donc, devant ce danger-là, je pense que ça mérite réflexion et qu'un assouplissement pourrait venir, ou alors c'est suicidaire et on se dirige dans le mur et puis advienne que pourra. C'est dangereux pour ceux qui sont au pouvoir, c'est dangereux pour l'opposition et à la limite c'est dangereux pour la viabilité du Congo comme un pays qui espère la réunification et qui mérite de se retrouver dans ses frontières avec un régime démocratique qui avait tout de même été ratifié par référendum par une large majorité de la population.
Merci. Jean-Claude Katende, vous êtes avocat et président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, ASADO. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. On sait que l'opposition C64 soutient les dialogues tels que proposés par les évêques de la CENCO et de l'ECC, un format que les pouvoirs ne soutiennent pas. Et à votre avis, dans ce contexte de crise dans l'est du pays et des tensions institutionnelles, les conditions sont-elles réunies pour harmoniser les divergences entre la C64 et les pouvoirs sur cette question des dialogues nationaux?
Dans la situation actuelle, les dialogues s'imposent. Les dialogues inclusifs ou les dialogues exclusifs. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que les C64, quel que soit son format, le gouvernement, quel que soit son conformant, les groupes rebelles, quel que soit leur formant, tout le monde est d'accord pour que les dialogues puissent avoir lieu. Que les gens se mettent autour de la table et discutent. Maintenant, pour ce qui me concerne, je suis convaincu qu'on finira par trouver une solution. Parce que c'est que le C64 demande que tout le monde soit autour de la table, c'est une bonne chose. C'est que le gouvernement aussi demande, en disant qu'on exclut les personnes qui ont pris des armes contre leur pays, c'est aussi défendable. Mais il faut que tout le monde se mette autour de la table pour trouver qu'est-ce qui peut être des justes milieux. Moi, personnellement, je suis d'accord avec les dialogues inclusifs, mais si on veut faire la différence, il ne faut pas qu'on oublie les questions de justice. Est-ce que les mêmes parties étaient à San City, où on a négocié, où on a essayé de trouver des justes milieux pour contenter tout le monde? Aujourd'hui, c'est presque les mêmes personnes qui ont pris les armes pour conquérir le voire par une voie qui est illégale. Et tout ça, c'est parce que ceux qui avaient pris les armes sous l'AFDL n'ont pas été sanctionnés. Les CNDP ainsi que les autres n'ont jamais été sanctionnés par la justice. Et donc, aujourd'hui, les mêmes acteurs reviennent avec les mêmes préoccupations. Et donc, si on n'inscrit pas dans ces dialogues inclusif des questions de justice, la conséquence c'est que d'ici 2060, les mêmes personnes feront encore la même chose et le pays n'avance pas. Et c'est là que je considère que la préoccupation du gouvernement, elle est pertinente. Allons-nous accepter chaque fois qu'on trouve un compromis, qu'un groupe de Congolais appuyé par des puissances étrangères prenne des armes pour agir en violation de la Constitution parce que la manière dont le pays est géré ne leur plaît pas. La Constitution prévoit des moyens démocratiques pour poser des problèmes qui se posent. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à cette question. C'est vrai que tout le monde doit venir, mais aussi il faut qu'on se pose la question, est-ce que les gens qui viendront prendront au moins un engagement de ne plus jamais prendre des armes contre le pays et que dans les cas où il reprendrait les armes, que la justice puisse les poursuivre. Parce que là où nous allons, c'est de dire il y a l'amnistie, tout le monde n'a pas de problème et on reprend à zéro. C'est dangereux, on va faire attention si on veut que la République démocratique du Congo avance.
Merci, Dona Moussema. Vous êtes directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant des Bukavu Sud Kivu. Que répondez-vous à cette opinion selon laquelle seul le dialogue ne suffit pas pour régler de manière durable la crise dans la partie est de la RDC? Vous avez suivi Maître Jean-Claude Katende, et qui redoute que, en procédant chaque fois de cette manière-là, nous risquons, n'est-ce pas, d'entretenir ces cycles de dialogues interminables.
Bon, je crois que tout dépend. Il faut d'abord voir la nature du dialogue en question, le fond et les formats qu'on va donner à ce dialogue-là. Sinon, c'est toutes ces questions-là qu'on doit aborder dans le dialogue. Moi, je crois plutôt qu'on ne peut jamais refuser de dialoguer, parce que toute crise ou tout conflit dans le monde, ça finit toujours, qu'on le veuille ou pas, par se résoudre à travers toujours un dialogue. C'est justement en dialoguant qu'on va mettre les cartes sur la table, on va voir les frustrations des uns et des autres pour essayer un peu justement de les résoudre, et sur base de ça, on peut partir sur un compromis avec éventuellement un cahier de charges ou avec des accords cette fois-là qu'il faut respecter. Je crois que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords qui n'ont pas été respectés, ce qui crée des frustrations, et c'est ainsi que nous rentrons toujours dans le même cycle un peu des violences, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords qui n'ont pas été respectés. Et là, comme nous le disons souvent, il y a un problème de manque de volonté dans le chef des acteurs. Et je crois que c'est là où il faut vraiment plus insister, le manque de volonté politique. Parce que ça ne sert à rien de toujours parler du dialogue, de se rencontrer, mais si dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre idée, vous n'avez pas la paix, alors c'est tronqué, c'est toujours lacunaire. Je vais même donner des exemples ici. Il y a depuis longtemps, le président Félix qui ne voulait pas du tout dialoguer, mais apparemment on est en train de le contraindre à aller vers le dialogue. Donc il accepte, mais par moment, il n'est pas sincère dans sa façon d'exprimer son esprit vers le dialogue. Même les autres aussi. Donc c'est comme si on faisait un tout petit peu un petit jeu de cache-cache à tout bout de champ. On accepte, mais on n'a pas la volonté politique. Je crois que c'est à ces niveaux-là qu'il faut vraiment beaucoup travailler, mais on ne peut jamais refuser le dialogue, parce qu'ils ont essayé avec les armes depuis longtemps, depuis 30 ans, ça n'a pas trouvé de solution. Donc la solution, ils donnent la meilleure solution, à mon avis, ça reste un dialogue sincère, inclusif, un dialogue ouvert à tout le monde qui va plancher sur toutes les questions, par exemple de sécurité, de paix, toutes les questions politiques, les frustrations au niveau de l'armée, au niveau même de la gestion de la chose publique. Ce sont toutes ces questions-là qu'on doit inclure dans ces dialogues, et tout le monde doit y participer, parce que tous les acteurs sont importants. C'est ça, voilà mon point de vue.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le dimanche 28 juin, c'était la date anniversaire de Jean Matolou Dodé, dit Papi Tex, ce célèbre chanteur, auteur, compositeur et interprète congolais. Il est l'un des cofondateurs du légendaire orchestre Empire Bakuba en 1972, aux côtés de Pepe Kale et de Dilou Dilou Mona. À l'occasion donc de son anniversaire, nous allons écouter l'un de ses classiques intitulé Magui, une chanson sortie en 1985 et on revient juste après.
Magui, t'as la beauté et la liouana, nayo Magui. Ola tisinga ngolo kole lamba. Namote mananka. Ay, Magui. Magui, mwe pipa ko se kinga, so ki opa kinga, nali felo. Mama ki, nini oko ki kolinga, ngai boge,
nasala tango nyoso nakosambela yawe apesa nga chance nazwa mbongo ya kovala yo pepo ya kolengela ka kitoko na yo kasi sika foyo nde nazangi wolo na diama napesi motema nanga nyonso nazali lokola lititi luti likolo ya nzete naza kokwea o ya mbanga
dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la radicalisation de la grève des médecins en RDC. Nous avons également analysé l'idée qui refait surface de la tenue d'un dialogue national. Participe à cette émission, Donat Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant des Bukavu au sud Kivu. Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, et il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FDH en sigle. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, les journalistes qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Le Soir. RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Les représentants de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies a fait l'annonce de cette nouvelle procédure engagée par Kinshasa vendredi 27 juin au cours de la réunion sur la situation de la République démocratique du Congo. La RDC accuse le Rwanda des violations de plusieurs conventions internationales. Et cette annonce a fait réagir un avocat international congolais qui salue cette action de la RDC contre le Rwanda. Jean-Claude Katende, vous avez souhaité nous parler justement de cette actualité relative à la saisine par la RDC de la Cour internationale de justice contre le Rwanda. On vous écoute.
Merci Guy Maté. Je voudrais commencer par féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo qui mène cette lutte en relâche pour arriver à faire condamner la République du Rwanda pour les multiples violations des conventions internationales, mais aussi les graves violations de droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est une action que nous soutenons et que nous encourageons, parce qu'il faut que le Rwanda, à un moment donné, rende compte des faits que ses troupes ont commis en République démocratique du Congo, en complicité avec d'autres mouvements rebelles où il y a des conflits. Je voudrais d'abord rappeler que la Cour internationale de justice a été créée en 1945 par les Nations Unies pour résoudre un certain nombre de problèmes, en fait, qui circonscrivent son mandat. Et le mandat de la Cour internationale de justice tourne autour de deux axes clés. Le premier axe, c'est sa compétence contentieuse. Quand deux États ou plusieurs États sont en conflit, et si ces États ont accepté de se soumettre à la juridiction de cette Cour internationale de justice, évidemment, la Cour peut se prononcer sur leur litige. Donc, son premier axe, c'est de s'occuper des différents des conflits entre les États qui ont accepté de se soumettre à sa paix. Le deuxième axe de ce mandat, c'est ce qu'on appelle la compétence consultative. Ça veut dire que l'Assemblée générale des Nations Unies ou les conseils de sécurité des Nations Unies ou d'autres organes ou institutions de l'ONU peuvent demander des avis à cette Cour sur certaines questions qui les préoccupent. Donc, je me résume en disant que le mandat de la Cour tourne autour de ces deux axes. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est le fait que la République démocratique du Congo, dans sa quête de justice contre le Rwanda, a déjà utilisé cette Cour plus d'une fois. La première fois, c'est cette action qui était portée devant la Cour en 1999. Et la deuxième fois, c'est en 2002, où la Cour avait été encore saisie. Et quelques années après, la Cour s'était déclarée incompétente de connaître les différends entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour la simple raison que le Rwanda n'avait jamais accepté d'être jugé par International Justice, mais en même temps aussi, le Rwanda avait émis des réserves sur certaines conventions internationales, ce qui a fait que les litiges soumis par la République démocratique du Congo n'avaient pas abouti à une décision quant à ce qui concerne le...
Oui, justement, parce que vous rappelez ici que ce n'est pas la première fois que la RDC a saisi cette juridiction internationale pour la même question. Vous avez rappelé 1999, vous avez rappelé 2002, mais chaque fois la Cour se déclare incompétente. Alors, cette fois-ci, la RDC a encore, n'est-ce pas, saisi la même Cour sur les mêmes faits. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des préalables que la RDC devrait accomplir pour donner cette fois-ci, n'est-ce pas, la démarche qu'elle mène actuellement, la possibilité d'aboutir?
Je pense que depuis 2006, 20 ans après, il y a eu une grande évolution en ce qui concerne le Rwanda. Il a levé certaines réserves qu'il avait émises. Par exemple, en rapport avec la Convention sur les génocides, la Convention sur la discrimination raciale, la Convention sur la torture, mais aussi la Convention sur la discrimination à l'égard de la femme. Donc, le fait d'avoir levé ces obstacles, ces réserves, pourrait éventuellement donner droit à la Cour de pouvoir se prononcer sur les faits qui lui sont soumis par la République démocratique du Congo. Et je rappelle que ce sont des faits extrêmement graves. Il s'agit des cas de massacres, des cas de torture, et des cas, en fait, de viols. Ce qui fait que le Rwanda a violé toutes les conventions dont je venais de faire mention. Et donc, nous estimons qu'une analyse attentive de ces réserves qui ont été levées permet effectivement à la RDC de permettre à cette Cour d'aborder non seulement des questions de procédure, mais aussi des questions de fond pour arriver à une décision. Mais vous savez que nous, en tant que militants de droits de l'homme, nous pensons que pour ce qui concerne la situation à l'est de la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait un tribunal international qui s'occupe en fait de toutes les violations de droits de l'homme qui ont été commises dans cette partie du pays depuis les années 90. Et l'avantage d'avoir un tribunal international sur le Congo, c'est que toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces violences, à quelque niveau que ce soit, que vous soyez Congolais, que vous soyez Rwandais, que vous soyez un étranger, vous pouvez répondre devant cette Cour.
Merci.
Ça veut dire en d'autres termes que la situation va être prise en compte de manière générale pour que plus jamais personne vienne s'aventurer en République démocratique du Congo en tuant, en pillant, en violant les femmes.
Merci, Donat Moussema. Ça peut être quoi, à votre avis, la pertinence et l'opportunité d'une telle démarche quand on sait que ce n'est pas cette démarche-là qui fera fléchir le Rwanda?
Effectivement, je crois que c'est une bonne démarche diplomatique et politique. Donc, c'est une avancée, hein, avec cette saisine, c'est une avancée parce que elle met la pression sur le Rwanda et au niveau aussi des victimes. Il s'agit d'un apaisement plus ou moins psychologique, mais sur les terrains, les combats vont se poursuivre, ça ne va pas cesser immédiatement. Et nous savons que souvent ces genres de lois, on les a connues, la procédure est trop longue, ça peut prendre beaucoup d'années, on peut même d'oublier les retombées par la suite. Et aussi, disons-le, la Cour n'a pas de moyens ou de mécanismes, de contraintes pour faire appliquer souvent ces décisions. Et c'est là où justement nous disons que nous pensons que c'est au niveau plutôt du gouvernement congolais qu'il faut prendre toutes ses responsabilités. Parce qu'on ne doit pas toujours à tout bout des champs citer les autres pays voisins, tout ça. Ce ne sont pas ces pays voisins qui nous empêchent d'appliquer la bonne gouvernance au niveau du pays, de gérer bien le pays. Par exemple, pourquoi ne pas renforcer les FRDC, améliorer la formation, l'équipement et les conditions de vie des militaires? Pourquoi ne pas renforcer la discipline et la chaîne de commandement? Pourquoi ne pas lutter contre la corruption et tout ce qu'il y a comme gabegie financière dans le pays? Et professionnaliser par exemple l'armée, la police, améliorer les conditions de tout le monde, de tous les services de sécurité, renforcer par exemple aussi l'unité nationale, favoriser le dialogue et sécuriser vraiment le pays. Parce que si le pays est sécurisé, si le pays est bien géré, tout ce qu'il y a comme Jérémia de là-bas à tout bout de champ, ça peut cesser. Et c'est là quand souvent j'interviens au micro de Radio Okapi, j'insiste toujours sur le rôle premier du gouvernement, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. C'est ça même la mission. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui nous empêchent de faire cela? Je crois que c'est plus une solution endogène. Il faut travailler au niveau interne et c'est là où nous avons besoin d'un gouvernement fort, peut-être aussi avec des acteurs qui peuvent appliquer la bonne gouvernance, des acteurs qui ont la bonne volonté, le souci des vrais patriotes à tous les niveaux. Voilà.
Merci, Madame Colette Brockmann. Comment vous entrevoyez cette fois-ci l'issue de la requête de la RDC devant la Cour internationale de justice?
Voilà. Je pense que le Congo a plus d'arguments encore que les fois précédentes, parce que le cas a déjà été expliqué si souvent, et aussi parce que le ministre congolais de la justice, M. Nguessa, a fait une longue partie de sa carrière dans les milieux de la justice internationale, et donc il connaît les procédures, il connaît les interlocuteurs, sa crédibilité est au-dessus de tout soupçon, et je pense qu'il pourra être entendu peut-être plus facilement que ses prédécesseurs, d'autant plus qu'il défend un dossier qui est incontestable, qui est de tous les 6 mois, qui est conforté par les différents experts qui font les rapports pour les Nations Unies et qui confortent l'argumentation congolaise. Cela dit, le Congo ne doit pas non plus risquer d'être mis en accusation, parce que les boomerangs, ça existe, et on pourrait aussi le reprocher de faire appel à des groupes armés étrangers, hostiles au Rwanda, en l'occurrence les FDLR, et donc ça affaiblirait sa position dans la discussion. Donc je pense qu'il a de bonnes chances de pouvoir faire avancer le dossier à condition d'être réglo et de ne pas donner des arguments à ses adversaires.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Alena de Bozi Boziana et on se retrouve juste après. C'était Alena de Bozibouziana, chanson qu'il a composée en 1985, quand il faisait partie encore de l'orchestre Showstar. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dona Moussema, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant de Bukavu Sud Kivu. Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal Le Soir. Transformer la jeunesse en un véritable levier de croissance économique pour la République démocratique du Congo, telle est l'ambition du nouveau programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes baptisé Debout Jeunes Congolais. Lancé mardi 30 juin 2026 à Kinshasa par le chef de l'État Félix Tshisekedi, ce projet d'envergure est adossé à une enveloppe globale de 1,3 milliard de dollars américains sur 6 ans, avec pour objectif ultime de créer des millions d'emplois d'ici à 2032. Ces programmes de grande envergure découlent directement des recommandations formulées lors de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes qui s'était tenue en novembre dernier. Ils s'articulent autour des 3 axes stratégiques majeurs, à savoir des formations professionnelles adaptées, un accompagnement technique à l'entrepreneuriat et une facilitation de l'accès au marché de l'emploi. Dona Moussema, vous avez souhaité nous parler de ces sujets sur la problématique de l'emploi des jeunes, les formulant ainsi: entre les diplômes, le chômage et l'emploi chez les jeunes en RDC, à Kinshasa, 78% des jeunes sont des chômeurs et vivent de la débrouille. On vous écoute.
Au fait, nous avons remarqué que depuis des années, on va à l'école primaire, on va à l'école secondaire, on va à l'université. On paye la prime depuis la maternelle, depuis l'école secondaire, depuis l'université. On rentre à la maison avec un gros diplôme et on n'a pas de travail. Et ça se répète pendant des années. Et on a remarqué que c'est environ 78% de cette jeunesse là-bas qui n'a pas d'emploi. Et on nous chante toujours le Congo de demain, la jeunesse et tout et tout. Alors on s'est dit, est-ce que les dirigeants congolais pensent vraiment à cette jeunesse? Est-ce que les dirigeants congolais pensent comment employer cette jeunesse? Vous connaissez toute la problématique Guimaté. Pour avoir l'emploi dans ce pays, en grande partie, ce sont des connaissances, c'est l'informel. Il n'y a pas de système de test ou pour dire qu'il y a un programme du gouvernement, comme quoi après le diplôme de gradué ou je ne sais pas de licence, on va vous embaucher, il y a un programme, il y a des décisions de formation, il n'y a rien de tout ça. Et ça fait que je crois, au niveau de la jeunesse, le Congo est en train d'aller tout droit vers le mur en ce qui concerne l'emploi. Parce que beaucoup de jeunes ne sont pas employés, 78%, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans tous les pays. Et c'est apparemment une situation qui semble ne pas gêner le pouvoir public. Alors, quand on sait que plus de 60% de la population congolaise, ce sont des jeunes, maintenant on s'est dit, quelle nation nous voulons bâtir? Voilà globalement cette problématique-là qui devrait faire réfléchir. Et comme conséquence, il y a les métiers informels, il y a le banditisme, il y a la débrouille, il y a, je ne sais pas, au niveau social, les gens qui ne peuvent pas se marier, vous avez fini la licence, vous êtes à la maison, vous avez 45 ans, il n'y a pas à manger, vous êtes toujours chez les parents, ça crée la frustration chez les jeunes, chez les parents, dans tout le pays. Et c'est une situation, je crois, qui devrait se faire remarquer et faire réfléchir le gouvernement congolais. C'est globalement c'est ce que je voulais dire par rapport à cela.
Et qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution?
Comme piste de solution, il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement responsable. La bonne gouvernance, toujours la question doit revenir. Un gouvernement qui tienne compte de la place prépondérante de la jeunesse. Comme je le disais, une jeunesse qui 60% de la population, que le gouvernement soit responsable. Pourquoi pas, par exemple, au niveau du Parlement, on ne peut pas voter une loi qui parle de l'emploi des jeunes. Ou par exemple, insérer dans le budget les bourses d'études, comme c'était dans les temps quand on étudiait, nous, il y avait la bourse d'études, c'était généralisé. Vous allez à l'université, vous touchez chaque mois. Alors tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Alors qu'on nous dit que le Congo, c'est un scandale géologique. Nous avons tout, nous avons les minerais, nous avons forêts, bois, nous avons eau et tout et tout. Donc, il y a cette volonté politique qu'il faut appliquer. Il faut aussi que les parents et les jeunes puissent avoir aussi la culture un peu de revendication. Ici, on a l'impression que quand vous avez un droit, vous ne l'exercez pas, vous vous taisez, et que tout ce qui vous arrive, c'est tout à fait normal. Il y a ça aussi chez les jeunes, parce qu'on a l'impression que les jeunes pensent que non, c'est normal que je puisse souffrir comme ça, sans emploi, je termine les études, les parents ont souffert, les parents n'ont pas de soins médicaux, les parents n'ont pas de salaire, moi-même, je n'ai pas de transport. Alors, il y a ça, il faut qu'il y ait aussi cette culture un peu des revendications, que par exemple les ministères d'emploi puissent penser aussi à des sessions de formation, qu'on puisse avoir par exemple la planification cette année, c'est autant de gradués qui terminent dans tel secteur. Comment on va les employer? Comment on va les former? Comment ils vont remplacer les autres et tout, donc voilà. C'est si simple que ça, mais il manque toujours la volonté politique.
Merci, Madame Colette Backman. 1,3 milliard de dollars américains sur 6 ans, avec pour objectif ultime de créer des millions d'emplois d'ici à 2032. C'est le budget pour financer les programmes présidentiels pour l'emploi des jeunes. Alors, parce qu'il y a un budget, peut-on espérer que ces programmes aboutiront effectivement à la création des millions d'emplois pour les jeunes, Madame Colette Backman?
Mais on peut l'espérer, en tout cas c'est déjà un geste très positif. Je crois qu'il y a aussi des mesures presque obligatoires que les autorités doivent prendre. Par exemple, je trouve extrêmement choquant que lorsque je vois que les matières premières qui se trouvent au Congo sont réexportées pratiquement à l'état brut vers soit les pays d'Asie, maintenant les États-Unis ou ailleurs, à l'état brut, alors qu'elles ne sont pas transformées dans le pays, alors qu'il y a des milliers de jeunes qui pourraient faire ce travail, qui pourraient avoir la formation. Bon, je me souviens que du temps même de la colonisation, c'était déjà l'exportation des minerais bruts, mais il y avait des écoles techniques, il y avait des jeunes qui acquéraient des capacités de transformation, de devenir contremaître et puis ingénieur. Et donc là, il faut vraiment une politique volontariste de la part des autorités pour donner cette formation aux jeunes, mais je crois qu'elle existe déjà, mais aussi pour l'imposer aux investisseurs, c'est qu'il y a une partie du travail qui doit être fait dans le pays et que les matières premières ne peuvent pas sortir comme ça à l'état brut, et ça ce sont des conditions qui doivent être imposées à tous les partenaires possibles, qu'il s'agisse des Chinois, des Américains, des Européens. Il faut imposer ces règles au départ. Après tout, c'est le Congo qui est le pays producteur, c'est lui qui a les richesses et c'est lui qui peut dicter sa loi. C'est un rapport de force, mais je pense que dans ce cas-ci, les forces sont aussi du côté du Congo.
Merci, Maître Jean-Claude Katende. Nous allons finir cette émission avec vous. Plusieurs politiques ont été mises en place pour promouvoir l'emploi des jeunes dans ces pays, mais en dépit de cela, cet objectif n'a jamais été atteint. Comment vous expliquez cela, Maître Jean-Claude Katende?
Merci, Monsieur Dématé. Mais je pense que la question fondamentale aujourd'hui, c'est de se demander est-ce que notre système éducatif répond aux besoins actuel du Congo. Vous allez voir que fondamentalement, notre système éducatif reste copié sur le système qui avait été institué ici par la Belgique, de former des gens pour qu'ils aillent demander de l'emploi. On formait des travailleurs, on ne formait pas des inventeurs, on ne formait pas des entrepreneurs, des gens qui devaient travailler pour leur compte ou s'associer avec les autres. Et donc, c'est le même système colonial qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nos jeunes sont formés pour aller demander du travail, pas pour créer du travail. Ça, c'est fondamental, il faut que ça change. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo de 1960. Ça, c'est la question fondamentale, il faut revoir notre système éducatif est aux conformes des créateurs d'emplois, pas des demandeurs d'emplois. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on va continuer à tourner en rond. Et notre éducation ne va pas être compétitive. Aujourd'hui, c'est vrai que nous nous plaignons qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais combien de jeunes méritent leur diplôme? Parce que les diplômes, pour moi, ce n'est pas le papier qu'on vous donne. C'est avoir la capacité de défendre les diplômes qu'on vous donne. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont capables de se défendre? Non. On connaît tout ça et les politiques.
politique ne s'adapte pas à l'environnement actuel. On a pris le système LMD ici au Congo, mais on sait bien que nos enfants ne sont pas aptes dans la recherche. Ce qui est le contraire du système occidental, où on initie les enfants à lire les livres. Combien de Congolais, à commençant par des adultes, combien de Congolais lisent un livre? Et maintenant, avec l'avènement du téléphone, c'est l'abrutissement total. Et on prend ce système, on l'amène ici, on sait que nos enfants sont faibles en recherche. Donc, nous avons en fait des responsables qui ne prennent pas en compte nos propres besoins dans les politiques nationales qui concernent l'éducation nationale. Vous avez vu vous-même avec les diplômes, les résultats de l'examen d'État qui ont été publiés. Presque tous les enfants étaient dans les bars et dans les boîtes de nuit. Vous imaginez quelle dépravation des mœurs il y a. Parce que non seulement l'éducation, c'est former les gens, mais il faut aussi leur donner une certaine éthique. Donc notre système éducatif est dans l'effondrement total.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Colette Pacman, Donna Moussema et Jean-Claude Katende. Merci aussi à Paul Badianyama qui est à la technique avec la participation de Diédonie Nangassa à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. Nous allons nous séparer avec Adieu Léa, une autre composition de Matoulou Dodé Papi Tex, toujours à l'occasion de son anniversaire de naissance. On écoute donc Adieu Léa et on se retrouve le samedi prochain.
Anga papi texo, ipimba susu matanga temwana. zala kalibo soso ki otali bana e
yo zongi mwa sima
e zala kalibo soso ki dia kese a konseyo
yo zongi mwa sima
yamba loye